C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur Elle.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent à l'occasion de la fête de la nature qui a lieu partout en France du 18 au 22 mai. Nous célébrons nous aussi notre patrimoine naturel en parlant de la loi biodiversité avec nos invités. Gilles Boeuf, professeur à Pierre et Marie Curie, conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. François Letourneux, président de l'association Fête de la nature. Et Benoît Hartmann, porte-parole de la Fédération France Nature Environnement.
C'est pas du vent sur RFI.
Alors, je vous emmène dans un petit sentier qui regorge de plantes sauvages. Et nous y arrivons.
Petit chemin étroit, entouré d'arbres.
Entre un mur et puis une résidence nouvellement construite. Donc voilà, vous avez de la pariétaire de Judée qui pousse sur les murs, donc c'est vraiment son milieu de vie, son biotope. Et au sol, de la laitue scariole.
De la laitue ?
Oui, de la laitue. L'ancêtre de la laitue, de celle qu'on mange, qu'on trouve au supermarché. Là, vous avez son ancêtre.
C'est la plante qui sort du
voilà,
mur.
Voilà, avec des grandes feuilles vertes comme ça, là, très, très hautes.
Grandes feuilles vertes de la taille d'une main.
Donc voilà,
la laitue, elle est comestible ?
Oui, tout à fait, la laitue est comestible. Donc ce qui est intéressant avant de la consommer, c'est de la rincer sous l'eau, parce qu'il y a une sorte de latex blanc qui sort de sa tige, un peu amer. À côté, vous avez du cerfeuil des bois, plante comestible, mais cuite. Attention, la racine est toxique, contrairement à sa cousine cultivée, la carotte.
Mais c'est des mauvaises herbes ?
Alors...
Ah, je vous sens un peu agacé là.
Pour le quidam, oui, on peut. Ça s'apparente à des mauvaises herbes. Mais quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que non seulement elles ne sont pas mauvaises, elles portent d'autres noms que le mot herbe. Et ont souvent des vertus médicinales et puis aussi peuvent être consommées. Enfin, pas, on ne va pas les cueillir en ville.
Pourquoi les plantes comestibles qu'on trouve en ville, il ne faut pas les manger ?
Déjà à cause de la pollution. La pollution qui vient des gaz d'échappement, ensuite les déjections des chiens, l'urine des chiens. Il y a aussi les produits phytosanitaires qui sont utilisés sur les trottoirs pour justement éradiquer les plantes. Du coup, c'est le moment de dire qu'il faut, pour consommer des plantes, il faut être sûr à 100% d'avoir reconnu cette plante. Il faudra bien observer les plantes, la forme de leurs feuilles, plus ou moins allongées, plus ou moins avec des poils, sans poils, la couleur de leurs pétales.
Est-ce qu'un pharmacien peut nous aider à reconnaître les plantes, Christelle Bonnat ?
Oui, les pharmaciens ont une formation à la botanique dans leur cursus. D'ailleurs, c'est eux qu'on va voir quand on a des doutes sur l'identité d'un champignon.
Christelle Bonnat, quand vous êtes malade, vous prenez des médicaments ou vous allez directement vous servir dans les jardins en plantes ?
Alors, ce qui m'arrive le plus fréquemment, c'est les problèmes de maux de gorge et... Je les soigne avec des tisanes de ronces, alors agrémentées avec un peu de miel, un peu de citron, mais voilà.
Les ronces, c'est ces plantes terribles qu'on marche dedans, qui grattent, c'est ça ?
Qui piquent, parce qu'elles ont des épines sur les feuilles.
Et vous en faites des tisanes ?
Tout à fait, une tisane excellente pour la toux.
C'est important de préserver toutes ces plantes qu'on peut trouver en Île-de-France, même au sein de la ville ?
Oui, parce que ça agrémente la vie au quotidien, la vie urbaine. La ville, c'est quoi ? Des voitures, des trottoirs, des arrêts de bus, des choses, du matériel. Là, les plantes, c'est du vert, c'est des couleurs, c'est des bonnes odeurs. Et aussi, un point de vue écologique, parce que les plantes, avec leur système racinaire, vont capter l'eau de pluie et éviter les inondations, par exemple. Les plantes peuvent avoir cette utilité.
Un reportage d'Antoine Lalanne sur les plantes comestibles en ville avec Christelle Bonnal, auteure du blog Les Petites Herbes. Alors, conserver, restaurer, valoriser la biodiversité terrestre et maritime, c'est très bien, mais avec quels moyens, Gilles Boeuf ?
Ah ben oui, c'est une vraie question. Lorsque le président de la République annonce, on était le 14 septembre 2012, on annonce donc la création d'une agence française. À l'époque, c'était deux. Alors, on a dit non, pour la biodiversité, hein, c'est plus actif. alors qu'on attendait une agence pour la nature. Et je lui dis, c'est pas la même chose, nature et biodiversité. Hein. Dans la nature, vous avez aussi toute la géodiversité. Et on a posé trois questions dans la minute qui suivait. Ok, c'est bien d'avoir une agence, pourquoi faire? Qui on y met? Et avec quels moyens?
C'est les questions que j'allais vous poser, figurez-vous, Gilles Boeuf.
Figurez-vous que c'est à peu près les questions qu'on repose encore aujourd'hui. Hein. Donc maintenant, on sait qui va s'y trouver, alors avec des heures et des malheurs. Parce que,
elle sera dirigée par Christophe Aubel.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc il met ça en place en ce moment. Donc par exemple, moi, je regrette très clairement qu'au niveau de l'environnement, on y mette l'ONEMA, qui fait la police de l'eau, et pas l'ONCFS, qui fait la police, effectivement, de ce qui n'est pas l'eau. Bon, pour des raisons qui sont des raisons, en fait, de discussion politique. Hein. Ensuite, les moyens qu'on y met, pour l'instant, on a une agrégation, effectivement, des moyens des organismes qui l'intègrent. Hein. C'est l'ATHEN, ce sont les parcs nationaux, la Fédération des parcs nationaux, et puis ce sont les aires marines protégées. Donc comment, avec un tel outil, on va être capable, effectivement, de faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça veut dire d'éduquer, de lancer des programmes de recherche, de fédérer des actions, de faire parler de la biodiversité. Il nous faut un petit peu plus que ça. Alors, pour l'instant, on a eu quelques agrégations d'argent, mais pas du tout au niveau de ce qu'on imaginait à l'époque. Donc, on avance là-dessus, avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais pour moi, il faut une véritable ambition maintenant. Politique, on l'a peut-être aujourd'hui, mais surtout également financière qui va accompagner ceci.
Benoît Hartmann ?
Oui, il faut absolument des nouveaux moyens dédiés, parce que faire une grande boîte et mettre tous ceux qui avaient déjà pas assez d'argent dans la même grande boîte en leur disant « maintenant, vous allez devoir faire plus »,
ça va pas régler le problème.
Eh bien, malheureusement, on sait que ça va pas résoudre le problème. Souligner le fait que ne pas avoir l'ONCFS, c'est se priver du bras armé. En gros, où est-ce qu'il y a des effectifs, où est-ce qu'on a des moyens humains? Bien, c'est dans l'ONCFS qu'il y a la police de l'environnement qu'on peut mobiliser. Mais la police de l'environnement, faut pas oublier que c'est aussi celle qui prélève les amendes et donc qui potentiellement aide à financer. Par ailleurs, il y a un principe qui est plutôt bon en France, qui s'appelle le principe pollueur-payeur, qu'on a beaucoup de mal à s'appliquer. Mais il est envisagé, par exemple, de faire une redevance pour l'exploitation des granulats marins, et que cette redevance, puisque c'est pas une taxe, on puisse l'affecter spécifiquement au financement de cette agence. Ces redevances-là, elles doivent se multiplier. C'est-à-dire que quand on accepte, quand on concède de perdre un petit peu de patrimoine français pour une utilisation industrielle, il est logique d'avoir une compensation financière qui puisse être affectée à la défense de ce vivant qui, en fin de compte, soutient toute l'activité. C'est extrêmement court-termiste de penser que je suis un lobby, alors je veux absolument vendre mes pesticides et donc je vais dire c'est pas grave pour les abeilles. Un monde sans pesticides, on n'a pas de mal à l'imaginer parce qu'il a déjà existé. Un monde sans abeilles, on a beaucoup plus de mal. Donc il faut sortir de ce court-termisme, il faut accepter que ceux qui sont responsables de la dégradation la compensent en partie en la finançant très lourdement. Initialement, il va falloir beaucoup d'argent. Il faut accepter que si on veut avoir une agence pour la biodiversité qui soit à peu près aussi forte et au moins aussi représentative que ce que l'ADEME est pour l'énergie, par exemple, en France, alors il va falloir accepter qu'il y ait une mise initiale de fonds qui soit importante. Et pour l'instant, les signaux sont plutôt au rouge, honnêtement. On n'a pas beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et les moyens humains qui étaient disponibles, on ne les mobilise pas pour des raisons politiciennes.
Vous parliez, Benoît Hartmann, du principe du pollueur-payeur. Il y a justement le triptyque éviter, réduire, compenser qui s'applique à tout aménageur dont le projet entraîne des dégradations écologiques. Mais concrètement, François Letourneux, quels sont les moyens de contrôle mis à disposition ?
Sur cette histoire de compensation, on est très mal à l'aise. Parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait une valeur d'assurance, que quand on casse quelque chose, on le rembourse, même quand c'est pas échangeable. Quand on tue quelqu'un sur la route, les compagnies d'assurance donnent à la femme ou au mari une indemnité qui correspond à ce drame. On prétend pas remplacer, on prétend pas compenser la perte. Et en tout cas, ça n'est pas un permis de tuer. On peut pas dire, je mets la somme et je tue le bonhomme. Donc on a un petit peu l'impression que dans cette loi éviter, réduire, compenser, on n'a pas suffisamment dit clairement, et la loi le dit un peu plus, mais pas encore assez, on n'a pas dit clairement que l'essentiel était d'éviter, si vraiment pas possible de réduire, et que les compensations, ça ne devrait être que le fait de compenser des dommages qu'on n'avait pas prévus. Mais si on avait prévu les dommages, et qu'on dit c'est pas grave, je vais les compenser, ça s'appelle un permis de tuer. Donc cette question de la compensation, elle est lourde pour cette raison-là.
Oui, Benoît Hartmann.
L'évitement, il est jugé par le préfet qui lui-même est l'autorité environnementale. Alors imaginez un préfet qui va aider au montage d'un projet économique pour le développement d'un territoire, et simultanément c'est lui qui doit juger si on ne devrait pas éviter éventuellement ce projet économique. Donc comprenez la position dans laquelle est le préfet, d'un arbitrage impossible. Donc ça fait des années qu'on demande une indépendance de l'autorité environnementale pour qu'on puisse y arriver arrivée concrètement. Et honnêtement, celle qu'on a obtenue est encore partielle. Et on continue à avoir des conflits qui font que, dans les dossiers de Sivens ou de Notre-Dame-des-Landes, pour citer des exemples très concrets, bien, la question de l'évitement n'a jamais été posée. Et la compensation, en revanche, est effectivement, pour un certain nombre de porteurs de projets, un droit à tuer. Je peux payer pour avoir le droit de détruire. Ben non, on ne peut pas accorder comme ça, à la légère, des dérogations sur la destruction d'espèces quand on est en train de parler d'une extinction massive.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Oublie la ville, oublie la vitesse, oublie l'agression verbale contre un arbre. Vois les nuages passer, le ciel s'ouvrir, écoute la rivière se taire, personne pour vous regarder contre un arbre, contre un arbre. Les jours à cran, les jours qui font écran, ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces contre un arbre. Laissez-vous faire, laissez-vous vous porter contre un arbre, contre un arbre.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la loi biodiversité avec nos invités. Gilles Boeuf, conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal, François Letourneux, président de l'association Fête de la Nature, et Benoît Hartmann, porte-parole de la Fédération France Nature Environnement. Et tout de suite, direction la Normandie, c'est au nord de la France, où des agriculteurs d'un nouveau genre n'ont pas attendu la loi pour préserver la biodiversité.
On a créé cette ferme en 2003 avec mon épouse Périne, néo-ruraux, naïveté absolue, mais envie extrêmement forte de vivre en harmonie avec la terre. On a fait en premier un jardin pour nourrir notre famille, qui est notre maison est là-bas, voilà. Et puis on a planté des arbres absolument partout. Donc vous voyez, là, les pommiers sont en fleurs, c'est absolument magnifique. Il y a 500 variétés d'arbres fruitiers qui poussent sur la ferme. On a creusé les mares, on a creusé ces îles jardins qui sont là où on peut aller.
L'eau est très présente. Hein.
Oui, parce que...
Là, on va franchir un pont.
Voilà. On a la rivière du Bec-et-Loing qui traverse la ferme. Et puis, on a encore rajouté de l'eau. Donc, on franchit un pont, on va sur ces îles jardins. C'est l'interface entre la terre et l'eau est toujours très fertile et productive. Donc, dans certaines cultures, ils avaient créé... À Amiens, les ortillonnages d'Amiens, mais ailleurs, des chinampas, qui étaient des sortes de jardins flottants. Et on s'est inspiré de ces systèmes, vous voyez. Donc là, on a des buttes de culture permanentes qui serpentent, et puis ces deux îles. Dans les mares, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a toutes sortes de bestioles. Au fond, on a la forêt-jardin.
On a l'impression que c'est dessiné.
Oui, ce qu'on voulait, c'était à la fois que ça paraisse sauvage, mais en même temps, c'est quand même nous qui l'avons créé. Et ce que je trouve assez sympa avec ce type d'agriculture, c'est que c'est plus naturel, et c'est aussi plus productif. Notre but, quelque part, je dirais, c'est de produire plus que de la nourriture. C'est qu'on cherche à faire en sorte que les légumes s'épanouissent, que les fruits s'épanouissent, mais aussi que les oiseaux sauvages, les vers de terre et même les êtres humains se sentent bien dans ce type d'environnement.
Alors chez vous, on parle de permaculture, c'est ça ?
Oui, l'idée, c'est de prendre la nature comme modèle. Et comme dans les écosystèmes naturels, tout fonctionne en boucle, on cherche à recréer ça à la ferme. Donc tout circule, tout échange, tout interagit. Il n'y a pas de déchets. La moindre petite herbe qu'on va désherber est une ressource précieuse. Donc du coup, la ferme est un milieu de plus en plus riche, de plus en plus complexe, à l'image de la nature, qui est complexe, et en même temps, ça fonctionne en boucle. Donc nous, ce qu'on cherche à faire ici, c'est prendre le meilleur de différentes traditions, et il en sort quelque chose d'inédit. Donc on voit qu'on arrive à concilier une restauration du milieu naturel, une guérison de la terre, si je puis dire, et en même temps, nourrir en abondance les êtres humains.
Est-ce qu'il y a quand même un travail d'offre et de demande ? Est-ce qu'on vous a demandé des légumes particuliers pour lesquels vous avez travaillé ?
Bien sûr, on travaille notamment pour quelques restaurants étoilés. Et donc, on a une grande diversité de végétaux.
Qu'est-ce qu'ils vous demandent en particulier, par exemple ?
Eh ben, des petits végétaux un peu rares. On a une gamme de légumes japonais, par exemple, ou des choses un peu rares, un petit peu raffinées. Et ces chefs nous ont beaucoup aidés à progresser. Maintenant, on travaille aussi pour des grossistes, pour des biocoop. Nos clients prioritaires sont les paniers de légumes qui sont délivrés chaque semaine à la ferme. On cherche à faire un système où il y a à la fois des végétaux cultivés, comme les fruits et les légumes, des poules et puis beaucoup d'arbres. Et des animaux, on a aussi des moutons, un cheval de trait, un âne, etc. Donc on cherche à imbriquer tous ces éléments, comme dans la nature, encore une fois. Donc c'est ça qui oriente notre travail, c'est plutôt d'être des chercheurs de solutions que des pourfendeurs des conneries qu'on peut faire à l'heure actuelle.
La ferme du Bec-et-Loing en Normandie, un reportage de Thomas Bourdeau. François Letourneux, qu'est-ce qui est prévu par la loi biodiversité pour la protection des sols, justement ? Et là, je pense à l'agriculture et à l'utilisation massive de pesticides, vous l'avez compris.
Ben, on avait beaucoup d'espoir, et pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'avenir est dans la main de Dieu. C'est-à-dire de l'Assemblée nationale. On sait que les lobbies ont joué puissamment, avec des arguments difficilement recevables. Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, quand un produit est extrêmement dangereux pour la biodiversité, le choix offert aux gens devrait être plus clair. On devrait leur dire, c'est un poison, vous décidez de l'utiliser, c'est un crime.
Benoît Hartmann, les villes s'étendent, les routes se construisent, il faut nourrir une population toujours croissante. Est-ce qu'on peut concilier développement économique et protection de la biodiversité ? Est-ce que ça ne joue pas en défaveur de la protection de la nature ?
Eh bien oui, on peut, et non seulement on peut, mais on en a la preuve. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, on parlait d'agriculture il y a un instant, en Inde, il y a des systèmes de production bio qui sont plus productifs à l'hectare que l'agriculture intensive chimique telle qu'on la pratique sous nos contrées. Donc concilier, c'est tout à fait possible. Vous parliez aussi de l'artificialisation du territoire qui est une catastrophe en France. On artificialise l'équivalent d'un département tous les 6 ans maintenant. C'était tous les 10 ans, il y a uniquement 4 ans. Donc ce phénomène est en accélération et la meilleure manière de faire disparaître une espèce, c'est de détruire son milieu. C'est pas de la chasser, je vous le dis. Donc oui, on peut faire autrement. On sait construire dense. On a tout intérêt à construire dense à plein d'égards, ne serait-ce que pour maîtriser le coût des réseaux, par exemple. Mais on a plein d'intérêt à le faire aussi économiquement et en termes de biodiversité. C'est possible, on l'a fait pendant très longtemps en faisant de la ville sur la ville et en évitant de consommer ces espaces agricoles et naturels qui sont les seuls espaces d'expansion des villes. Donc, c'est possible de nourrir 9 milliards d'humains, d'autant plus que n'oublions pas qu'actuellement, sur la planète, nous jetons ou perdons un tiers de la nourriture que nous produisons dans les champs. Ce qui veut dire que si demain, on arrêtait ce gaspillage alimentaire à grande échelle, on aurait la capacité de nourrir beaucoup plus de monde et en bio, de surcroît.
Allez, direction Kervignac, c'est en Bretagne, à une quinzaine de kilomètres de Lorient. Nous sommes en ligne avec Gilles Lagneau, président de l'Union nationale de l'apiculture française. Gilles Lagneau, bonjour.
Bonjour.
Le Sénat a renoncé à l'interdiction totale des néonicotinoïdes, ces insecticides nocifs pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Comment vous expliquez cette décision ?
Difficilement, disons, parce qu'il y a tous les arguments pour retirer les néonicotinoïdes. Hormis l'influence de certains lobbyistes, je ne vois pas pourquoi les sénateurs n'ont pas voté, je dirais, massivement le retrait des néonicotinoïdes. On a apporté tous les éléments. La toxicité contre les abeilles, c'est prouvé et archi-prouvé. La difficulté, enfin, les pour la santé humaine, les problèmes que cela apporte aussi. Et on a montré aussi que l'on pouvait produire sans ces produits-là. Alors j'ai du mal à m'expliquer le comportement, hormis l'influence de certains grands réseaux sur nos politiciens.
Ben c'est ce que disait tout à l'heure Gilles Boeuf. Pourtant, ça aurait été un signal fort au moment où le plan Ecophyto 2 doit entrer en vigueur. Ecophyto 2, c'est un plan qui vise à réduire de moitié les pesticides d'ici 2025.
Oui, ça aurait été un signe fort, d'autant plus qu'on a eu la COP21, on a eu ce nouveau plan Ecophyto, parce que le précédent, ça a été un échec, je dirais, quasiment total. Mais ce qui me perturbe énormément, c'est quand même quand je regarde les résultats des votes. On a quand même un ministre qui se dit vouloir promouvoir l'agroécologie. Il avait une occasion là de faire tout ce qu'il fallait en disant « Voyez, messieurs les sénateurs, voyez, messieurs les parlementaires, il est temps de changer notre façon de faire et je vous incite », message qu'il n'a jamais envoyé dans ce sens-là. Et que ce que je trouve dur quand même, et là je veux dire non en tant que président de l'UNAF, je trouve très dur de voir quand même que le Parti socialiste, à l'unanimité ce coup-ci, s'est abstenu. Et là, je ne comprends pas le rôle de nos politiques qui, à chaque élection, nous disent l'abstention est un vrai fléau. Et là, on a 100% des parlementaires dans un groupe qui se sont abstenus. C'est un manque de courage, franchement. Je trouve ça honteux et scandaleux, je dirais.
Écoutez, Gilles Lagneau, Benoît Hartmann veut réagir. Benoît Hartmann.
Oui, je partage cette indignation. Le principe du politique, c'est que son but à lui, c'est de défendre l'intérêt public. Parce que il y aura toujours des intérêts commerçants, des intérêts particuliers qui iront à l'encontre de cet intérêt public. C'est l'élu qui doit être le garant du fait que la décision qui est prise à la fin, elle n'est pas prise à la faveur d'un au détriment de tous les autres, mais bien qu'on défende l'intérêt du plus grand nombre. Quand les élus se couchent, désolé de le dire, devant l'influence d'un lobby comme Syngenta, quand les élus se couchent...
Donc Syngenta, c'est un multinational qui produit justement un des insecticides en cause, un des néonicotinoïdes.
Quand les élus européens se couchent devant l'interdiction du glyphosate, du Roundup, pour l'appeler
le
comme...
Le Roundup qu'on retrouve pour de la firme Monsanto, voilà. Pour être précis.
Voilà, mais pour être très clair, c'est les mêmes élus qui sont défaillants de la même manière, parce que leur première mission devrait être de défendre notre intérêt à nous, et pas l'intérêt d'entreprises qui leur mettent le couteau sous la gorge, on le comprend bien.
Gilles Lagneau, vous êtes vous-même apiculteur, quelles sont les alternatives aux néonicotinoïdes?
Mais aujourd'hui, les alternatives aux néonicotinoïdes sont fort nombreuses. Il y a déjà un principe dans l'agriculture qui devrait être utilisé à chaque fois, c'est le principe de rotation des cultures. On s'aperçoit qu'avec déjà rien que les rotations des cultures, on a beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Après, c'est semer à des dates intelligentes pour ne pas développer les pucerons. On sait que les semis de céréales trop tôt, en fin d'été, début d'automne plutôt, ça aide le développement du puceron. Les maïs, c'est pareil, si c'est semé trop tôt, ils naissent pas bien, etc. Mais les alternatives, elles existent, quoi. Mais aujourd'hui, le bon sens paysan, il a disparu. Ils ne vivent plus avec la terre. Avant, ils savaient lire dans la terre, ils savaient lire dans les végétaux. Mais aujourd'hui, ils sont loin de tout ça. Ils connaissent très peu de choses, désolé, dans du monde animal, du monde du vivant. C'est hallucinant, quoi. Un exemple justement de cette guerre stupide. Depuis qu'ils livrent cette guerre stupide contre les 10 ravageurs des cultures, ceux-ci se sont multipliés par 3 au moins. Donc, faut voir dans ce cas que les armes entre guillemets utilisées ne sont pas les bonnes. Vous seriez chef d'entreprise, vous auriez un problème, vous diriez à vos salariés, réglez-moi le problème. Vous retournez les voir quelques temps après et le problème est multiplié par 3, vous leur dites, c'est pas bon là les gars, faut faire autre chose. Et bien là, on est dans ce monde-là aujourd'hui, on livre une guerre chimique à des insectes et ils sont multipliés par 3. Par contre, les dégâts collatéraux sont considérables.
Merci infiniment Gilles Lagneau. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de l'apiculture française. Je vous laisse retourner à vos ruches. Bonne journée, merci infiniment.
Merci.
François Letourneux, la loi sur la biodiversité suffira-t-elle à inverser la tendance du déclin du vivant selon vous?
Bah bien sûr que non, bien sûr que non.
Au moins, ça mérite d'être clair. En conclusion, c'est rassurant.
Pour beaucoup de raisons. Enfin, on a dit que la taxe sur l'huile de palme n'était pas dans la loi. N'oublions pas que le dommage que nous, Français, causons à la biodiversité, on l'a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que c'était plus dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole, et c'est encore plus dans les pays du Sud que dans les territoires d'outre-mer. N'oublions pas que notre principale atteinte à la biodiversité, c'est d'être riche et d'aller se servir dans les pays pauvres. Si on déforeste au Brésil et en Indonésie, c'est pas pour les Brésiliens et les Indonésiens, c'est pour nourrir le nord de la planète. Donc oui, la loi française, elle fera son petit chemin. Ce que je voudrais dire quand même, et c'est très important, l'action, elle doit être faite à tous les niveaux. La nature est extraordinairement résiliente. Dès qu'on lui fout la paix, dès qu'on l'aide un peu, elle reprend du poil de la bête. Et chacun d'entre nous peut, à son échelle, contribuer un tout petit peu à cette remontée de la nature. Tous ceux qui sèment sur leur balcon deux pots de fleurs avec des graines à papillons, ils ont des papillons. Ceux qui posent des mangeoires l'hiver pour nourrir les mésanges, ils ont des mésanges. Et ceux qui font attention dans leur potager à la manière dont ils cultivent, ils ont des résultats. Et ceux qui traitent les espaces verts sans pesticides, ce qui est le cas, Dieu merci, de beaucoup de villes en France, dont Paris, constatent immédiatement un changement dans la faune et la flore de ces espaces verts. Alors, pourquoi se priver? C'est pour ça qu'il faut entraîner tout le monde dans cet effort-là. On n'est pas en train de se dire que c'est la faute uniquement des carriers, des grands pétroliers ou de... C'est un travail pour tout le monde. Et c'est pour ça que on conseille à tous ceux qui le peuvent de se précipiter sur Internet pour voir où il y a une manifestation faite de la nature près de chez eux. Ils y trouveront un passionné de nature qui leur, comme ce que vous avez passé dans le début de l'émission, qui leur servira de médiateur pour découvrir des choses qu'ils n'auraient pas vues tout seuls. Mais ils reprendront goût à cette capacité d'agir, à cette merveille de la nature, et c'est indispensable.
Merci infiniment, Gilles Boeuf, François Letourneux et Benoît Hartmann, d'être passés dans ce studio pour nous vanter les bienfaits de la biodiversité. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. À la technique et à la réalisation, c'était François Porcheron. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de C'est pas du vent. Très bonne journée à tous. À suivre, un nouveau journal sur la Radio du Monde.